Bonjour à toutes et tous, c'est Thibaut Temmerman au micro du Monde en Partage, l'émission d'actualité internationale sur le 5FM. Voilà déjà un mois que nous sommes en onde et merci beaucoup de votre fidélité. Alors, je sais que c'est le temps des vacances, pour certains d'entre vous en tout cas, et peut-être justement parce que c'est le temps des vacances, je vous propose d'aborder la question des mobilisations citoyennes en faveur des droits de la personne. Alors, l'un des avantages de la mondialisation et de la réalisation du monde comme village planétaire, selon le terme du sociologue Marshall McLuhan, c'est que les dictateurs ont de plus en plus de mal à dissimuler leurs méfaits aux yeux du monde et que les voix des opprimés traversent murs et barbelés jusque chez nous. Les réseaux sociaux ont décuplé cette possibilité, même si la censure demeure forte. Et pour autant, on le constate dans les médias traditionnels, l'information, et c'est malheureusement encore plus le cas au Québec, laisse assez peu de place aux questions internationales. C'est aussi pour cela qu'une émission comme la nôtre existe, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, parler de ceux dont les droits sont bafoués là-bas et de ceux qui les défendent ici. C'est le thème d'aujourd'hui, et pour témoigner de son expérience, mon invité que je suis heureux d'accueillir aujourd'hui en studio est Béatrice Vaugrant. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes la directrice d'Amnesty International pour le Canada francophone. Je précise d'emblée que votre organisme se préoccupe tant d'alerter les Canadiens sur la situation des droits de la personne dans le monde, et c'est pourquoi vous êtes à nos côtés, mais également de ces mêmes droits au Canada.
Tout à fait.
Et défendant notamment, mais pas exclusivement, les peuples autochtones. On connaît l'engagement d'Amnesty International depuis plus de 50 ans contre la peine de mort, les tortures, les emprisonnements arbitraires. On a peut-être en mémoire certaines campagnes choc. Est-ce que vous pouvez également préciser depuis quand existe cette antenne du Canada francophone ?
On a fêté nos 40 ans cette année,
donc
73. Donc oui, depuis 1973 au Canada. D'ailleurs, c'est même né à Saint-Lambert.
Et quels sont actuellement les dossiers sur lesquels vous travaillez présentement? On a vu dans la presse qu'il y avait notamment des alertes concernant le cas d'Aaron Yoon. Est-ce que vous pouvez par exemple nous en parler?
Oui, c'est en fait, on est toujours en alerte sur des cas de toute manière de Canadiens qui seraient emprisonnés à l'étranger et qui feraient face à de la torture ou des détentions arbitraires ou des procès inéquitables. Donc on a toujours des campagnes de fond sur lesquelles on investit des ressources et nos recherches. Et puis bien sûr, on reste toujours alerte à toutes les nouvelles, entre autres Égypte, Brésil récemment, et puis le cas de ce jeune Canadien de 24 ans, parce qu'on a mené une mission récemment en Mauritanie. Et les cas de torture en Mauritanie et de procès inéquitables sont légion, malheureusement. Ça fait des décennies que nous pouvons documenter ce qui se passe en Mauritanie. Et Alex Neve, d'ailleurs mon collègue de la section anglophone au Canada, a pu rencontrer ce jeune Aaron Yoon. Alors en fait, ça fait 18 mois qu'il est en prison. Ce qui ne nous étonne pas, nous parle des tortures qu'il a subies jusqu'à ce qu'il signe une feuille d'aveu d'appartenance à des mouvements Al-Qaïda ou autres. Il est bien évident qu'Amnesty n'est pas ici pour prouver ou pas son innocence. On n'est pas une force de police, on n'est pas des juges, on n'est pas une force de justice. Mais par contre, quel que soit le crime qu'on ait commis, on a le droit à un procès équitable, on a le droit à la présomption d'innocence avant et on a le droit aussi, surtout, de ne pas subir de torture. Et c'est pour ça que pour nous, ce cas-là est important à relater à l'ensemble des Canadiens et à dire, là-bas, il y a un jeune homme quoi qu'il ait commis, a subi de la torture.
On a là un exemple d'une personne, Aaron Yoon, qui permet d'alerter les Canadiens et le monde sur les conditions d'incarcération, de procès et de la torture en Mauritanie. Mais comment parvenir à équilibrer ce besoin d'incarner une revendication et ne pas laisser croire qu'il s'agit d'un cas unique ou que l'on oublierait tous les autres?
Amnesty International est né en fait de la volonté d'engager des gens ordinaires ici, chez nous, à protéger les droits d'autres gens ordinaires qui, eux, sont en danger. Donc, c'est clair que c'est né d'abord avec, en 1961, un avocat qui a été choqué que des étudiants portugais qui avaient porté un taux à la liberté se fassent arrêter. Donc, toute personne à libérer, c'est une vie libre. Et ça, c'est important de travailler. Bien sûr, il y a des enjeux mondiaux énormes et je crois qu'il ne faut pas démoraliser ou démobiliser en disant, bah, vous savez, il y a 1 milliard de ceci, il y a 200 millions de cela. Puis là, effectivement, avec moi, qu'est-ce que je peux faire ici à Montréal avec mon pouvoir et ma signature? Et en fait, oui, notre devoir est de documenter ce qui se passe et toute la torture systémique et les enjeux systémiques de sécurité, de justice et de police en Mauritanie ou ailleurs dans le monde, mais aussi de voir, regarder, il y a des hommes, des femmes qui en subissent les conséquences. Et personne autour de nous, quand on le ramène chez nous, sans tomber dans la démagogie, mais dire, vous voudriez pas voir votre fils, votre père, votre fille dans cette même situation-là chez nous. Et oui, c'est important de lier ça à des histoires de personnes parce que on dit souvent, ben, on permet de réunir des familles. Et donc, à travers cette situation de ce jeune homme-là, qui, quoi qu'il ait commis, a le droit à un procès équitable, entre autres, je le répète, mais c'est le cas de milliers de personnes qui se font enfermer pour juste ce qu'elles sont, ou alors les idées différentes qu'elles pourraient avoir, donc des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion. Et on a un marathon d'écriture chaque fin d'année, et on invite le public partout au Canada, à Montréal et partout au Québec à participer à ce marathon d'écriture-là. On écrit des cartes ensemble, des cartes de vœux ensemble, et ces millions, parce qu'on en arrive maintenant aux millions de cartes, font que 67% des personnes à qui on écrit sont libérées. Donc oui, il y a un impact, une action. Vous, plus vous, plus vous, plus vous, il y a un impact. Et c'est important de pas se laisser, je dirais, démoraliser par l'ampleur d'un phénomène, mais une vie à sauver, c'est une énorme vie à sauver.
Il y a effectivement énormément d'enjeux. Comment fait-on pour justement choisir un enjeu plutôt qu'un autre? Parce que ce n'est pas parce que
Tout à
l'on n'en
fait.
parle pas de cet enjeu-là qu'on ne s'y intéresse pas, mais à partir d'un moment, il faut bien faire des choix. Comment
Oh,
ce choix peut-il
vous avez
s'effectuer?
entièrement raison. C'est un exercice difficile auprès des militants, en fait, parce que Amnesty International est né avec, surtout le mandat, durant la guerre froide et autres, de défendre ce qu'on a appelé les droits civils et politiques. Alors, je vais faire un petit cours sans rien, mais droits civils et politiques, procès équitable, pas de torture, non-discrimination, etc. Alors qu'en 2000, et avec la mondialisation que vous nommiez d'ailleurs, on s'est aperçu que, oui, d'accord, toi, t'es en prison, t'as été enfermé, mais pourquoi? Ah, parce que tu protégeais à l'open terre, ou tu protégeais ton droit à un revenu, ou tu protégeais ton droit à avoir la même éducation que les autres, mais tu étais discriminé parce que tu n'as pas la même religion, etc. Et donc, on s'est intéressé à ce qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels. Éducation, logement, revenu décent, droit d'association, etc. Et donc, on est à maintenant, je dirais, un organisme qui défendons l'ensemble du spectre des droits humains. Donc, quand on défend l'ensemble et puis qu'on a des ressources qui sont limitées, parce que je répète qu'Amnesty n'accepte aucune subvention gouvernementale, donc on ne dépend que des dons de personnes ordinaires, encore une fois, qui font des gestes d'engagement, on est obligé de faire un exercice que l'on fait à un niveau international parce qu'on est aussi un organisme démocratique. Toutes les sections du monde entier sont représentées, puis on décide ensemble ce sur quoi on va mettre les priorités. Donc, les questions de violation de droits par les États, torture, peine de mort, etc., sont une question importante. Violation droits des femmes, tout ce qui est pauvreté, lutte à la pauvreté par l'angle des droits humains, migrants, parce qu'il y a de plus en plus de migrants sur Terre et de personnes qu'on appelle sur les routes, que ce soit des migrants, des travailleurs migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, hein. De plus en plus de personnes et de femmes sont sur les routes pour échapper à la terreur ou à la misère. Et pourtant, les pays riches font des forteresses de plus en plus hautes pour ça aussi. Donc, il faut protéger les droits des réfugiés, particulièrement aussi au Canada. Donc, on a certains thèmes sur lesquels on travaille. Et par exemple, cette année, on travaille sur les droits sexuels et reproductifs des femmes. On a une campagne qui s'appelle J'aime mon corps, j'aime mes droits, avec un angle plus grand public qui est le fait de vouloir arrêter les mariages d'enfants. On a une belle exposition qui s'en vient le 14 août à Montréal, une belle exposition internationale au Jésus, mais qui s'adresse aussi aux droits sexuels et reproductifs des femmes, parce qu'il y a une grande conférence mondiale, Population et Développement 2014, et si on ne s'adresse pas à leur liberté de choix, d'avoir le conjoint qu'elles souhaitent ou la conjointe qu'elles souhaitent, le nombre d'enfants qu'elles veulent, l'accès à la santé, en sécurité, à leurs droits sexuels et reproductifs, ben, on n'adressera pas beaucoup les problèmes de développement.
Nous sommes bien conscients que les droits de la personne et leurs violations ne concernent pas uniquement l'Afrique, mais profitons que Montréal nous offre tant de festivals, dont celui des Nuits d'Afrique, justement, pour découvrir des artistes venus d'ailleurs. Le Mali à l'honneur du Monde en Partage avec le groupe Tartite. C'était un extrait d'Al-Afete du groupe Tartit, un hymne à la paix que vous pourrez peut-être écouter prochainement puisqu'ils sont en concert le 17 juillet à 20h à la Tulipe dans le cadre du Festival des Nuits d'Afrique et ils seront accompagnés d'autres groupes originaires du Mali. Vous êtes bien à l'écoute du 5FM et Le Monde en Partage et Béatrice Vaugrant, directrice de la section du Canada francophone pour Amnesty International, est avec nous pour parler de mobilisation citoyenne. En préparant cette émission, je me suis souvenu du documentaire de Paul-Émile D'Entremont, Une dernière chance, dont la bande-annonce sera sur notre site internet. Et il est question du parcours de demandeur du statut de réfugié. Et il y a notamment Zaki, un jeune Égyptien qui a été condamné à 6 ans de détention à la suite d'une cabale policière et judiciaire. Et dans ce documentaire, il raconte que durant son emprisonnement, il recevait chaque semaine de très nombreuses cartes postales d'Amnesty International qui lui ont permis de tenir bon durant tout ce temps. Une grande partie de ces cartes postales venait de Montréal, c'est d'ailleurs ce qui l'a incité à s'installer ici. En tout cas, une belle histoire que je voulais vous partager ici à cette antenne. Les cartes postales sont donc un des moyens qui permet aux citoyens de faire la différence.
Tout à fait, non, c'est clair, il y a beaucoup de... en fait, on aime bien aussi recevoir des cartes postales, j'y pense, hein. c'est perdu, mais quand on écrit par milliers à des personnes qui sont injustement emprisonnées, on les sort de l'ombre. Et en fait, c'est ce qui aide les états répressifs, c'est dire, il y a l'impunité, il n'y a personne qui va s'occuper de toi, tu es au fond d'un trou, puis on va pouvoir faire ce que tu veux, etc., à part ta famille proche. Et des organismes comme Amnesty, donc indépendants, vont être capables de documenter ce qui se passe avec cette personne-là. Et quand on est des milliers à écrire, ben, tout d'un coup, c'est un peu plus difficile de cacher ce cas pour les états répressifs. Donc, parfois, les conditions de détention s'améliorent pour éviter de dire qu'on a maltraité cette personne-là. Et donc, dans, comme je le disais, 67% des cas, les personnes sont libérées. Donc, j'encourage beaucoup, beaucoup les gens courant fin décembre de nous retrouver sur amnesty.ca et puis de participer chez eux, dans leur travail, dans leur école, université, n'importe où, et de participer à cette campagne-là. Mais la mobilisation citoyenne, elle peut prendre plusieurs formes. Bien sûr, on a des groupes de militants qui s'impliquent à l'année longue avec nous, qui s'organisent par thème. Il y en a qui s'occupent des droits économiques et sociaux, droits des femmes, droits des LGBT. Il y en a d'autres qui s'occupent des pays, Chine, Inde, Haïti et autres, et qui s'impliquent vraiment pour nous en grand nombre, qui organisent des activités, des actions originales selon leurs moyens. Je dirais que la mobilisation citoyenne, elle est vraiment importante. Les droits, je peux me paraphraser Martin Luther King, mais ça ne se donne pas, ça se prend. C'est toujours la mobilisation citoyenne qui a fait que les droits des femmes se sont améliorés, les droits des Noirs, les luttes civiques se sont améliorées, les droits des travailleurs se sont améliorés. Mais par contre, il faut toujours être vigilant. Je dirais que ces dernières décennies, on a vu, cette dernière décennie particulièrement, peut-être une espèce de d'érosion du leadership. Je dirais des États de l'Ouest démocratique qui, avec la guerre au terrorisme, à laquelle je mets toujours des guillemets, ont fait qu'on s'occupe de votre sécurité, mais vous inquiétez pas, on érode un peu les droits humains, mais c'est pour votre bien. Et en fait, il faut s'opposer à ça. C'est pas forcément la bonne réponse pour lutter légitimement pour notre sécurité et lutter contre le terrorisme, mais il faut respecter nos institutions de justice. Et les droits humains, c'est pas seulement quand ça va bien. Les droits humains, c'est quand ça va mal et qu'il faut faire des choix. Donc, ne pas de torturer, ne pas avoir d'autres cas d'Omar Kader et de détention arbitraire, traiter comme on doit traiter toute personne, donc avec un procès équitable et autres. Donc la mobilisation citoyenne, elle est importante, et je dirais qu'avec l'érosion des États de l'Ouest, et puis On a bien sûr des nouveaux États qui économiquement se distinguent, hein, Chine, Brésil et autres qu'on nomme toujours, mais qui en termes de leadership, de droits humains, je pense qu'on a encore des preuves à aller chercher. Et dans ce moment-là où les États se cherchent, on a une société civile qui par contre prend la rue de plus en plus, qui dit son ras-le-bol de la corruption, son ras-le-bol de droits économiques et sociaux qu'ils n'ont pas, ils vivent dans la misère, ils voient la corruption, ils voient la répression, la police, la justice qui ne donne jamais justice, et donc ils sortent de plus en plus dans la rue. On le voit, on l'a vu bien sûr avec le printemps érable, on l'a vu en Europe ces temps-ci où les politiques d'austérité sont très graves et ont des impacts importants sur la vie des gens, on l'a vu au Brésil, on l'a vu en Turquie, sur des questions d'ailleurs à la fois environnementale et de droits humains. Je pense que c'est deux grandes causes qui vont finir par se rencontrer un jour aussi. On le voit bien sûr en Égypte en ce moment, où on reste très prudent par ailleurs du changement qui vient de s'opérer. Donc les droits, c'est une continuelle bataille, c'est une continuelle pression pour dire oui, nous, population et peuple, on a besoin d'avoir nos droits, de ne pas être discriminés, de pouvoir vivre, comme le dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'abri et libre de la terreur et de la misère.
Et finalement, cette mobilisation ici encourage l'autonomisation des droits de la personne là-bas. On peut agir comme caisse de résonance relayée auprès des sociétés civiles, de nos dirigeants également, sur ce qui, est entrepris là-bas.
On demande des comptes au Canada, on demande des comptes pour savoir quelle va être votre position, bien sûr, à l'étranger sur la scène de l'ONU. On le sait qu'en ce moment, ces dernières années, le Canada n'a pas forcément brillé par des politiques fortes de droits humains ou alors une politique à la carte avec des positions fortes sur Iran ou autres, mais des politiques beaucoup moins fortes et des pratiques beaucoup moins fortes ailleurs. Mais il faut continuer à demander des comptes au Canada. Il faut continuer à demander des comptes sur nos propres droits humains au Canada aussi, évidemment. Mais la solidarité internationale prévaut. Elle est importante. Je ne peux pas être totalement libre dans mon pays si je sais qu'ailleurs, il y a des violations qui se passent. Et même dans mon pays, soyons vigilants parce que souvent on me dit « Ah, mais Béatrice, ailleurs c'est pire, ici au Canada on est bien ». Bien sûr que je préfère vivre au Canada qu'en Syrie en ce moment, ça c'est clair. Sur ce, quand on laisse éroder des droits humains ici, chez nous, ça donne bien sûr des personnes qui concrètement ici ont moins de droits, mais ça donne aussi matière à des États répressifs qui disent « Regardez, même au Canada maintenant la police fait ça, les autochtones aussi vivent avec moins de droits, on en a permis ». Maintenant, l'acceptation d'informations obtenues sur la torture, etc. Donc, si même le Canada le fait, moi, je continue à le faire aussi. Et sur la scène aussi de l'ONU, par exemple, quand le Canada demande des comptes, maintenant, il se fait ressortir et il se fait dire aussi ses quatre vérités sur le plan des droits humains. Donc, c'est important de défendre les droits humains aussi chez nous, mais aussi de faire preuve de solidarité internationale.
Et cette empathie permet également de comprendre aussi ce qu'ont pu vivre les personnes qui vivent autour de nous et que l'on ne connaît pas. Je pense encore au cas de Zaki, qui sait parmi ses collègues ce qu'il a pu vivre. Cette mobilisation permet aussi de prendre cela en compte. Et pour terminer sur une note positive, j'ai vu sur le site d'Amnesty International une section bonnes nouvelles. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à partager?
Bien sûr qu'on a des bonnes nouvelles, heureusement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des victoires, on veut avoir de l'impact en droits humains. Allez-y régulièrement parce qu'évidemment il y a plein de personnes qui sont libérées. Je pense à des journalistes récemment à Cuba, entre autres. Donc des personnes pour lesquelles peut-être certains de vos auditeurs ont écrit. Puis oui, on a pu avoir de l'impact. En termes de belles nouvelles importantes, il y a le traité sur le commerce des armes aussi, bien qu'il y ait eu deux États qui ne l'aient pas signé, mais maintenant, on a un traité sur le commerce des armes qui contrôle en principe le commerce des armes. On n'est pas naïf, ça va prendre du temps à se mettre en place, mais il existe. Des États commencent à le signer, à le ratifier. Il va falloir d'ailleurs demander des comptes au Canada qui a décidé de ne pas le signer tout de suite, contrairement à 66 autres États. Ça, c'est vraiment une honte entre vous et moi. Entre le monde. Il faut que ça se sache.
C'était en l'occurrence une des questions qui était soulevée lors de l'émission de la semaine dernière. Donc,
c'est clair qu'il faut, il faut signer. La régression et la réduction des pays qui pratiquent la peine de mort, et puis on le voit aux États-Unis maintenant, de plus en plus d'États font des moratoires ou abandonnent le recours à la peine de mort qui, je répète, est non seulement immoral, illégal selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais en plus, pour qui ça ne suffirait pas, est coûteuse, coûte 2 à 3 fois plus cher qu'un recours à la prison à vie et inefficace. Il n'y a pas plus de réduction de la criminalité avec des États qui recourent à la peine de mort. Donc on a des victoires importantes aussi sur la scène de la peine de mort et puis des victoires où certains États aussi font des améliorations sur la protection des droits des femmes et la protection des droits des LGBT.
Un grand merci d'avoir accepté spontanément notre invitation,
Merci à
Béatrice
vous.
Vaugrante. Et je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos campagnes présentes et à venir, et dont nous aurons, je l'espère, l'occasion de saluer encore les succès.
Merci à vous, puis j'espère que ça va en convaincre quelques-uns de se joindre.
Aline est déjà à mes côtés, sa revue de presse nous attend après cette pause musicale.
Regarde mon pays, dis-moi ce que tu vois. Regarde nos enfants, dis-moi ce que tu ressens. As-tu envie de hurler? Es-tu dégoûté? Envie de te lâcher? Sens-tu le besoin de te révolter? Palma tatam meriwa Ojun tadi daneri Jimra baita dimeri Nous avons une nation à guérir et un pays à bâtir. Nous avons des causes à soutenir. Non, j'ai plus le cœur à te haïr. As-tu envie de te lever? Hey. Et voudrais-tu t'engager? Hey. Vas-tu tout lâcher? Hey. As-tu envie de te révolter? One heart. Que ceux qui ont compris chantent avec moi.
One Love du groupe HSAO, extrait de leur album Oria. Ce groupe québécois se produira également dans le cadre du Festival des Nuits d'Afrique le 21 juillet au quartier des spectacles. Et puisque l'on parlait en début d'émission des droits de la personne, parlons du Tchad dont sont originaires les membres du groupe HSAO, où l'opposition est malheureusement particulièrement malmenée et victime d'arrestations arbitraires. On passe à un tout autre sujet avec vous, Aline Zalé. Bonjour.
Bonjour Thibault.
Alors, quel est le thème de la revue de presse de ce jour?
Eh bien, aujourd'hui, on va faire un tour du monde de l'art urbain et on part tout de suite au Portugal. Alors, pour vous, Thibaut, qu'est-ce que ça évoque, Lisbonne, le Portugal?
Alors, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais spontanément, je pense aux maisons blanches accrochées aux collines, leur céramique bleue, la tour de Belém, les petites rues pavées.
Oui, ça fait rêver, effectivement. Eh bien, la semaine dernière, on a appris dans un article de l'agence France Presse que l'un des symboles culturels de la ville, les calçadas portuguesas, ce qui veut dire les chaussées portugaises, risque d'être menacé à cause de coupes budgétaires. Ces trottoirs traditionnels, dont les motifs disposés en mosaïque évoquent souvent l'âge d'or des découvertes portugaises, se sont développés au XIXe siècle. Aujourd'hui, les restrictions budgétaires de la municipalité risquent d'affecter les budgets alloués à l'entretien de ces trottoirs artistiques. Dans cet article, on retrouve Georges Duarte, un paveur d'une cinquantaine d'années, qui nous explique que les trottoirs hors circuit touristique sont souvent pavés à la va-vite, avec de simples pierres blanches sans motif. Une des porte-paroles de la mairie, Louisa Dornella, nous explique cela par le fait que l'entretien de ces chaussées coûte très cher à la mairie et que l'entretien du mètre carré de chaussée artistique s'élèverait à 90 euros, ce qui correspond à 120 dollars. Un coût trop important pour la ville. Donc des trottoirs chargés d'histoire et un patrimoine urbain unique en son genre qui risque de disparaître sous les effets de la politique d'austérité que le pays doit adopter depuis 2 ans.
Art urbain toujours, mais mode également, et qui ne font pas forcément bon ménage.
En témoigne la dernière attaque de la boutique du créateur new-yorkais Marc Jacob à Paris par l'artiste de rue Kidult. C'est le New York Magazine qui nous rapporte cette affaire. La guéguerre entre les deux artistes ne date pas d'hier. Cette fois-ci, le graffeur a tagué en vert le nombre 686 sur la façade de la boutique. Ce chiffre n'est pas anodin lorsque l'on sait qu'en réplique au tag géant rouge art sur un de ses magasins new-yorkais, le créateur de mode avait à l'époque édité un t-shirt avec la photo de la façade taguée et l'avait vendu 686$. Alors après avoir commis son forfait, Kidult a posté une photo sur les réseaux sociaux accompagnée d'un commentaire 680, 689, 686, combien est-ce que tu en veux pour ça ? Avec humour, Marc Jacobs en a donc profité pour se faire un peu de pub et pour faire un pied de nez à son artiste ennemi. Pour le créateur, ce tag a été tout trouvé pour une mise en scène sur un nouveau t-shirt qui est donc vendu au prix de 686$. L'artiste graffeur voulait dénoncer la société de consommation et surtout la récupération par l'industrie du luxe d'un art qui doit pour lui rester dans la rue. Il s'est finalement fait prendre à son propre jeu.
On continue avec la chronique et une application mobile pour lutter contre les tags racistes.
Oui, c'est le Huffington Post qui nous rapporte cette initiative de l'association française la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Effaçons le racisme de nos rues, c'est le slogan qui accompagne la sortie de l'app LICRA. Donc le principe de cette application est très simple. Lorsqu'un passant repère un graffiti raciste dans la rue, il lui suffit de le prendre en photo et de le géolocaliser afin qu'il soit pris en charge par la plateforme juridique des villes concernées. L'association voit dans le mobile une nouvelle façon de militer alors que les actes racistes augmentent de façon constante en France, plus 21% en 2012 selon l'association. En tout cas, il s'agit d'une initiative originale et tout à fait dans l'air du temps pour venir à bout de ces tags d'un mauvais genre.
Une excellente initiative en effet. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon Aline. Le Monde en Partage, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver les informations concernant cette émission, le documentaire que j'ai évoqué, les musiques qui ont été jouées, rendez-vous sur notre site internet lemondeenpartage.wordpress.com. Il y aura également un lien vers la dernière campagne d'Amnesty International et je vous invite à vous rendre sur leur site officiel amnesty.ca. Vous pouvez également réécouter cette émission ainsi que les précédentes en ligne ou en balado-diffusion et aimer notre page sur Facebook. C'était Thibaut Timmerman à la réalisation. Merci encore à notre invitée de ce jour, Béatrice Vaugrante, ainsi qu'à Aline Zallet pour la revue de presse. Le magazine Centre-Ville s'en vient juste après la pub. Nous nous retrouvons lundi prochain à 11h. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine sur Radio Centre-Ville. Je vous laisse avec ma découverte musicale du moment. C'est du jazz turc et l'artiste s'appelle Julid Özçelik. Sandım ki Zühre